Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'histoire. L'histoire du mouvement LGBTQ+ au Québec. C'est l'histoire d'une lutte contre la discrimination, mais aussi contre la violence. Depuis l'arrivée des colons et jusqu'à aujourd'hui, les personnes non cis ont été la cible de nombreuses agressions verbales et physiques, autant dans la sphère publique que privée, mais elles se sont aussi réunies pour mieux se défendre et ont tranquillement fait changer les lois, comme les mentalités. Voici Sophie Croteau.
Dès l'arrivée des colons en Nouvelle-France, et comme dans la majorité des pays du monde, il est impossible à l'époque de vivre librement son identité de genre et son orientation sexuelle, et il faut donc se rencontrer dans des endroits secrets entre membres d'une même communauté. Au 19e siècle, l'Église catholique a même une emprise si forte sur la population et la politique qu'elle réussit à faire adopter des lois qui condamnent les comportements hors normes. En 1841, une loi canadienne qui condamne la sodomie est votée et la rend passible de peine de mort. En 1869, la peine est réduite à quelques années de prison, mais est ensuite changée en 1886 pour s'appliquer à plus de comportements jugés indécents. En 1906, on interdit même l'immigration au pays des gens qui ont déjà été condamnés pour ce genre de comportement ailleurs. Dans les années 50, le discours change et on ne considère plus l'homosexualité comme un crime, mais plutôt comme une maladie mentale. On favorise des méthodes forcées de guérison pour les gens condamnés, notamment pour les jeunes, qui sont envoyés dans des maisons d'accueil pour être réhabilités. Les années 60 et 70 sont synonymes de contre-culture et de mobilisation partout en Amérique du Nord, incluant au Québec. On conteste les lois et les comportements discriminant les femmes, les personnes noires, les personnes handicapées et les jeunes, et évidemment la communauté LGBTQ+. On organise des manifestations, on publie des magazines, on bâtit des organismes de soutien et on ouvre des bars et autres lieux de rencontre pour les communautés. Plusieurs procès entourant la discrimination de personnes gays ou trans apportent des jugements en leur faveur et on change donc lentement la loi en matière d'emploi, de syndicalisme et de famille pour qu'elle soit plus inclusive. En 1969, les relations homosexuelles entre adultes sont décriminalisées et en 1977, la Charte des droits et libertés de la personne québécoise statue qu'il est interdit de discriminer une personne à cause de son orientation sexuelle, par exemple pour accéder à un logement ou un emploi. L'année suivante, en 1978, il est enfin possible pour les personnes homosexuelles d'immigrer au Canada. Malheureusement, plusieurs divisions existent à travers le mouvement au Québec, par exemple entre les groupes anglophones et francophones, mais aussi entre les communautés gays et lesbiennes qui se discriminent entre elles. C'est aussi une époque où la police organise régulièrement des descentes dans les bars et les saunas gays de la province, une des plus célèbres étant celle ordonnée par le maire de Montréal, Jean Drapeau, en 1975, qui veut nettoyer la ville avant les Jeux olympiques de 1976. Ces événements sont souvent suivis par des manifestations qui mènent éventuellement à la création de l'Association pour les droits des gays du Québec en 1976 et à la première manifestation de la fierté gay du Québec en 1979. Les années 80 et 90 sont marquées par l'épidémie du VIH-SIDA et par des vagues de crimes violents contre la communauté LGBTQ+. Les descentes policières continuent de se produire régulièrement à Montréal, alors que des personnes gays, lesbiennes et trans se font assassiner en pleine rue. Par contre, c'est aussi le début du combat pour les droits des personnes trans et de la lutte à la transphobie. Plusieurs organismes voient aussi le jour pour soutenir les communautés, dont l'Aide aux trans du Québec et Gay Écoute en 1980. Depuis le début des années 2000, des lois québécoises et canadiennes sont régulièrement revues pour être plus inclusives et donner aux personnes LGBTQ+ les mêmes droits qu'au reste de la population. En 1999, les couples de même sexe sont inclus dans 27 lois québécoises et ont permis leur mariage au civil dès 2002 au Québec, puis en 2005 au Canada. On vote aussi des lois qui donnent aux couples gays des droits en matière d'adoption, de parentalité et d'avantages sociaux. En 2015, il est désormais permis aux personnes trans de faire changer leur genre et leur prénom sur leur acte de naissance, même sans avoir recours à la chirurgie ou à un traitement médical. L'année suivante, on inclut l'identité et l'expression de genre à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec pour empêcher la discrimination et on modifie le code criminel pour protéger les personnes trans. Si des lois protègent maintenant la majorité des droits des personnes de la communauté LGBTQ+, il reste encore beaucoup de chemin à faire pour les faire appliquer et les protéger, mais encore plus pour sensibiliser la population à contribuer elle aussi à la lutte contre la stigmatisation et la discrimination des personnes trans.
Ouais, le Canada et le Québec ont souvent été cités comme progressistes dans leurs lois pour la communauté LGBTQ+, dans le monde, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour reconnaître les particularités des communautés autochtones, notamment, qui sont entre autres représentées par un « 2 » dans l'acronyme, qui signifie « Two Spirits », deux esprits. Merci Sophie Croteau, c'était en 5 minutes.